France Musique. Musicopolis. Pianopolis, chapitre 5. Un phénomène mondial. Au cours du 19e siècle, Paris a de plus en plus mérité son surnom de Pianopolis, la ville du piano. Au point que nombreux sont ceux qui en ont conçu une haine farouche pour l'instrument. Pour celles et ceux qui en jouent, appelés tapoteuses et tapoteurs, et pour toute la musique facile qu'on a écrite pour lui. Ce qui n'a pas empêché l'économie du piano de se développer jusqu'à donner à certains serviteurs de l'État l'idée d'en tirer une manne toujours bienvenue. Un impôt sur le piano, voilà ce qui est proposé. Pianopolis est menacé, lit-on dans le Messager des théâtres en 1861. Il est question de la création d'un impôt sur l'instrument de luxe, d'art et de travail qui a fait la réputation des batailles et des Érard. Nous n'avons point de voix ici pour la discussion. Au reste, ce n'est encore qu'un léger bruit et le piano continue à retentir à tous les étages de nos maisons. En 1893, ça se précise. Le Figaro publie un article en première page intitulé « La mort des pianos ». En ce temps-là, lit-on, Paris méritait de plus en plus son surnom de pianopolis. Nul, à moins d'être plus sourd qu'un vieux juge, n'ignorait que le piano, comme l'eau et le gaz, se trouve à tous les étages des immeubles bien tenus. Petit à petit, le Parisien, endurci par un exercice quotidien, diurne et nocturne, est devenu pareil à Mithridate, pouvait absorber, sans défaillir, les gammes les plus empoisonnées. Mais cela ne devait pas durer. Dès que nous sommes façonnés à un mal, il faut que des esprits révolutionnaires songent à nous en guérir. En effet, M. Robert Mitchell, député de la Gironde, propose un impôt de 10 francs sur les claviers retentissants. Que va-t-il advenir de cette motion ? Tout Pianopolis en tremble. On l'a vu, ce nom de Pianopolis, tout à fait mérité par Paris, qui contient selon les statistiques 457 000 pianos en 1887, sans compter Neuilly, Auteuil ni Clichy-la-Garenne, ce nom de Pianopolis donc n'est pas toujours dit de manière positive. C'est qu'en effet, le phénomène de masse des instruments produit son lot de dommages collatéraux, si on peut le formuler de cette manière. Ceci dit, la propagation des pianos n'est en aucun cas limitée à la ville de Paris. Selon Le Monde illustré, ce n'est plus Pianopolis, c'est Piano Globe, la Terre tout entière est envahie. Après la révolution de 1848, beaucoup de choses ont changé pour le piano à Paris. D'abord, les virtuoses eux-mêmes, qui s'y réunissaient précédemment, n'y sont plus. Chopin et Kalkbrenner sont morts en 1949. Thalberg est parti pour Londres, puis aux États-Unis. Hertz, lui aussi, est en tournée prolongée. Liszt a arrêté de se produire en récital et il s'est retiré à Weimar. Un chapitre de l'histoire du piano est terminé. À présent, les grands pianistes présenteront d'autres types de programmes, loin des paraphrases d'opéra et des pièces pyrotechniques. On joue à présent les sonates de Beethoven, les œuvres des maîtres anciens et les pièces des romantiques en passe de devenir classiques. Anton Rubinstein, par exemple, mêle dans ses programmes les anciens et les modernes, dans une veine sérieuse ou classique. Dernier tiers du 19e siècle, Paris forme moins le goût européen. C'est davantage l'Allemagne qui établit à présent ses critères. Une conception de l'art musical, grand A, grand M, s'impose avec Beethoven pour père, Bach pour grand-père et Wagner pour fils. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas ceux qui vont entendre la Valkyrie le mercredi de se régaler de chauve-souris le jeudi. Les goûts changent donc au cours du 19e siècle et le paysage pianistique se transforme. À Paris même, c'est du côté de la facture que peu à peu la ville perd son prestige de pianopolis. Les grandes expositions nationales de l'industrie française avaient mis en avant les facteurs français, leur grande inventivité et leur dynamisme. Les maisons Pleyel, Erard et Pape en particulier. Après la première exposition universelle de 1851 à Londres, c'est le tour de Paris de recevoir les exposants du monde entier en 1855. Si les facteurs de piano britanniques et français rivalisent depuis 70 ans et atteignent tour à tour les premières places dans ce domaine, cette fois-ci, Pleyel et Erard remportent les plus hautes récompenses. Mais Camille Pleyel et Pierre Erard, les deux chefs d'entreprise, meurent tous les deux cette année-là. Et leurs successeurs vont vivre sur leur réputation sans continuer à innover. À l'exposition de 1867, la fin de leur suprématie sera actée. Pendant que les Français et les Britanniques, les Pleyel, Erard et autres Broadwood se reposaient sur leurs lauriers, dans d'autres pays, on cherchait à améliorer les pianos. Ce qui pêche encore vers le milieu du siècle, c'est la puissance alliée à la solidité. Si vous voulez un son qui ne soit pas trop maigrichon, il vous faut des cordes assez épaisses. Mais plus elles sont épaisses, plus la pression pour les tendre est intense. Et donc, plus il faudra un cadre solide. Dès 1825, le bostonien Alpheus Babcock fait breveter un cadre métallique d'une seule pièce dans un piano carré. Puis son compatriote Jonas Schickering dépose un brevet pour un cadre en fonte. En 1843, ces pianos à queue sont équipés. L'innovation est majeure pour assurer la résistance des pianos, surtout lorsqu'il y a de grands écarts de température comme en Amérique du Nord. En 1851, à la Grande Exposition de Londres, la maison Schickering de Boston remporte la palme pour ses pianos carrés et une mention spéciale pour ses pianos à queue. Bientôt, elle offrira un de ses instruments à Liszt, qu'il appréciera beaucoup. Juste après, entre 1853 et 1858, trois grandes entreprises de piano vont voir le jour en Allemagne. Ce sont Bechstein, Blüthner et Grotrian Steinweg. Mais ces maisons auront fort à faire pour lutter contre la nouvelle entreprise d'un émigré autrichien aux États-Unis, Heinrich Steinweg. Celui-ci a anglicisé son nom en Steinway et il a ouvert en 1853 à New York une firme qui construit d'abord des pianos carrés, comme c'est la mode, puis des pianos à queue, enfin des pianos droits. Son fils, Karl Theodor, précédemment associé à Grotrian en Allemagne, le rejoindra en 1865. Deux ans plus tard, à l'exposition universelle de Paris, ils obtiennent la médaille d'or haut la main. La maison Steinway & Sons a pu en l'espace de 14 ans à peine devenir la première mondiale en matière de facture, comme le prouve sa médaille d'or à l'exposition de 1867, c'est que ses ingénieurs ont repris et encore amélioré toutes les innovations récentes des pianos. Le cadre en fonte, bien sûr, et aussi les cordes croisées. Vers 1844, en Europe, la tension des cordes était de 10 tonnes. 20 ans plus tard, dans un Steinway, elle est montée à 30 tonnes. Ce qui implique aussi des ajustements dans la conception de l'ensemble de l'instrument, des cordes, du feutre, des marteaux et finalement de toute la mécanique. Les transformations et les améliorations apportées par la firme Steinway à ses pianos ont été possibles grâce à la formation du dernier des fils arrivé à New York, Theodor, grand inventeur qui avait étudié la physique et l'acoustique et qui était en relation permanente avec le physicien Helmholtz. Le résultat a été un piano à la fois indestructible et hypersensible. Si pendant sa carrière de virtuose, Liszt avait besoin de deux pianos par récital, parce qu'aucun n'était assez solide pour résister durant une soirée entière, à présent, plus aucun pianiste ne pouvait venir à bout d'un Steinway, même s'il déchaînait sur lui des ouragans d'octaves, d'arpèges, d'accords, assénés pour imiter le plus large orchestre wagnérien. Et dans le même temps, l'instrument pouvait enfin répondre à toutes les plus subtiles intentions de l'artiste, atteindre les plus délicats pianissimos, avec des sons qui duraient longtemps, plus longtemps que jamais auparavant. mais par-dessus tout, le timbre du piano était riche, noble, moelleux, profond. Il pouvait se fondre avec tous les autres. Il devenait le son, celui vers lequel toute la musique devait tendre. Bref, il devenait l'idéal sonore de son époque, avec tout ce que cet idéal impliquait dans la construction de l'histoire de la musique et de l'interprétation. Entre les révolutions de 1848 et la Première Guerre mondiale, tout a changé dans l'histoire du piano. Les grandes entreprises se battent au niveau industriel, les ateliers sont devenus des usines. La production mondiale, estimée à 85 000 pianos en 1870, va dépasser 210 000 en 90 pour atteindre 600 000 en 1910, plus de la moitié étant américaine. Les maisons Pleyel et Erard, qui ont tout inventé au début du 19e siècle, vont vivre encore quelque temps sur leur acquis. Pianopolis ne mènera plus la danse du piano, mais de loin en loin, cependant, elle verra éclore quelques pépites. Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, Claire Chevalier sur un piano Erard de 1905, grand modèle de concert, avec l'ensemble Anima Eterna dirigé par Jos van Immersel. tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Cédric Chatelus pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation, Hortense Leblouc pour les recherches et Clément Diaz pour le site.
À réécouter sur francemusique.fr.